Bonjour. Merci d'être là, aussi nombreux, nombreuses, en ce samedi matin magnifique, de venir vous enfermer dans une superbe école secondaire sans ventilation. C'est vraiment le fun de voir ça, des gens qui sont impliqués et qui ont le goût d'en savoir plus. Donc, sans plus tarder, en fait, on est déjà un petit peu en retard, mais je pense que c'est correct dans l'horaire de la journée. On va amorcer là, ce qu'on va faire ensemble ce matin. En fait, on a une heure, donc environ, je vous dirais, il nous reste à peu près 50 minutes total. Ce matin, je vais vous parler de chapeaux et d'étiquettes. Ça a l'air un peu bizarre, mais j'ose pas mettre ça comme titre de conférence parce que ça fonctionne pas très bien. Bonjour. Alors, la première chose, chapeau, pourquoi? Parce que mon premier chapeau à moi, c'est un chapeau de maman. Dans mon rôle de mère, je suis d'abord et tout l'apprentissage de l'autonomie. Oui, allez-y. Pour nos enfants. Je pense que notre rôle de parents, c'est de les amener vers être autonomes et être bien, bien dans leur peau, bien dans leur vie, bien dans ce qu'ils vont faire. Peu importe leur degré de difficulté là-dedans, leurs compétences et tout ça, je pense que c'est ça qui est important dans la vie. Donc, je suis maman d'une seule grande fille qui va avoir 15 ans cet été. Et ma grande fille, elle a plusieurs étiquettes. Alors, elle a la première étiquette, celui de ado. A-D-O. Ouais. Alors ça, c'en est une déjà très, très belle. Apparemment, c'est une maladie qui guérit. Je l'espère fortement. Mais ensuite de ça, ma grande fille Anaïs, elle a un TSA, donc un trouble dans le spectre de l'autisme. C'est une enfant qui est quand même de haut niveau, donc elle va dans une école secondaire régulière. Elle n'a pas d'accompagnement, mais elle a beaucoup de support, je vous dirais, de toutes sortes pour l'aider à passer à travers ça. Et ensuite de ça, elle a un trouble de modulation sensorielle. On va parler beaucoup de sensoriel aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus ce que ça veut dire plus tard. Elle a également un trouble du langage oral, une dyslexie, une dysorthographie et un TDAH. Fait que quand on a tout ça, on fait comme « ouf ». On est capable d'être heureux quand même. Ensuite de ça, j'ai un deuxième chapeau, qui est le chapeau qui m'amène ici devant vous aujourd'hui, entre autres. C'est celui d'entrepreneur. En fait, il y a 15 ans, en même temps que j'étais enceinte de ma fille, j'ai parti l'entreprise FDMT. C'était pour répondre, c'était un concours de circonstances, donc un pur hasard que je suis dans cette entreprise-là avec une enfant comme ça, mais moi, je trouve que la vie a fait bien les choses. Et en fait, je suis tombée là-dedans tout simplement parce que j'avais envie d'avoir beaucoup de temps pour ma fille. Étant une future maman, je me disais, ça va être le fun, mon entreprise, je vais pouvoir faire mes propres horaires. Mm-hmm. Être entrepreneur, ça prend beaucoup de temps, mais ça offre une certaine flexibilité. Donc, Alors, en fait, FDMD, c'est quoi? C'est favoriser le développement maximal de tous. Le but de l'entreprise, c'est l'accessibilité à des produits et maintenant aussi à des services pour vraiment aider le développement de chaque enfant, peu importe le niveau dans lequel on est rendu. Évidemment, le départ a été beaucoup au niveau sensoriel pour les ergothérapeutes qui travaillent dans une petite niche d'ergothérapie, en fait, qui s'appelle l'intégration sensorielle, le mot le dit. Et ça m'a amené à faire beaucoup de choses qu'on va parler un petit peu plus tard, vraiment dans le concret. Donc, ce matin, un survol du système sensoriel pour savoir un peu comment ça fonctionne, les composantes, les dysfonctionnements. On va regarder aussi des outils et des stratégies à utiliser dans notre quotidien pour aider les enfants à ce niveau-là. Et troisièmement, on va apprendre à utiliser notre chapeau de détective, c'est-à-dire savoir est-ce que un certain comportement X ou Y pourrait pas être une difficulté sensorielle et qu'on pourrait pas trouver des solutions facilement. Alors, sans plus tarder, on va commencer par une vidéo. Comme ça, ça me donne le temps de prendre une petite gorgée d'eau. C'est plus facile pour moi dans ce temps-là. On a le son. C'est bon. Oh. On a tout le
monde. Les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde
secret pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire le ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2/3 de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent. Il devient spécialiste, spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. A l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Jack Schoenkopf de l'Université d'Harvard le confirme.
Advances in neuroscience, molecular biology and genomics have a very simple message. That message is that early experience, literally, is built into our bodies, for better or for worse.
Surveillons donc nos habitudes, car elles structurent directement le cerveau de l'enfant. Tout cela pour dire que le cerveau se nourrit de nous et du monde. Alors offrons-le lui et offrons-lui le meilleur.
If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaf.
Alors, ce petit vidéo que j'aime beaucoup. Oui, madame? Oui, à la fin, je vais vous... Vous pouvez me laisser votre adresse courriel et je peux vous envoyer le PDF de toute la formation. Donc, je trouve que c'est plus pertinent que d'imprimer un paquet de papier et ça reste plus facilement dans nos ordinateurs. Donc, ça vous sera offert. Alors, en fait, le petit vidéo sur le développement du cerveau, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on apprend par les expériences, et plus on a des expériences positives et heureuses, plus l'expérience, c'est ce qu'on va retenir, finalement. Donc, c'est vraiment important d'avoir des interactions qui sont positives avec les enfants. Je suis certaine que la plupart d'entre vous le saviez déjà, mais de le savoir que scientifiquement, c'est vraiment, ça compte, c'est important. Alors, en fait, au niveau du système sensoriel comme tel, il y a beaucoup de choses qu'on connaît déjà. En nos fameux cinq sens, que ce soit le toucher, le goût, la vue, l'ouïe ou l'odorat, on sait qu'on va percevoir à travers ces sens-là. Les deux sens qu'on connaît un petit peu moins, c'est le système proprioceptif, celui à travers lequel on interprète, à travers nos muscles, on interprète les informations, et le système vestibulaire au niveau du mouvement. Donc, dans le fond, le système sensoriel, c'est vraiment un outil d'apprentissage qui est essentiel à la construction de nos connaissances. C'est à l'aide du système sensoriel qu'on va découvrir le monde. On le voyait d'ailleurs, les enfants qui découvraient l'ombrage dans le petit vidéo ou encore la pluie sur la peau. C'est vraiment le système sensoriel qui fait ça, qui nous permet ça. Alors, je voudrais vous porter un petit peu attention dans le concret. Pendant que vous m'écoutez ce matin, on a tous des stimuli sensoriels qui sont là. Exemple, vous êtes en train de lire, donc vous utilisez votre vision, des mots qui sont là. Vous avez pu regarder ce qui était déjà écrit. Il y a plusieurs choses décrites dans le local aussi. Au niveau auditif, on entend différents bruits. Moi, j'entends le bruit du moteur du projecteur qui est là, derrière moi. Mais des fois, on entend un voisin qui a bougé. On a entendu la porte s'ouvrir tout à l'heure. Donc ça, c'est au niveau auditif. Au niveau tactile, vous ressentez peut-être le crayon que vous tenez dans votre main, le papier. Vous ressentez aussi les vêtements que vous portez aujourd'hui ou encore le siège sur lequel vous êtes assis. Encore, on y porte attention. Au niveau olfactif, bien, ça se peut que vous sentiez l'odeur de parfum de votre voisin ou de votre voisine. Ça se peut que l'odeur dans la classe, quand vous êtes rentré, ça vous a peut-être dérangé ou pas. Donc, vous pouvez l'avoir. Au niveau gustatif, il y en a qui ont encore leur odeur de café avec eux. Tu sais, il y a encore en train de boire le café, donc voilà. Ça peut être, moi, je mange une petite gomme présentement, donc ça pourrait être ça que je vais sentir pendant que je vous parle. Au niveau du mouvement, en fait, il y a vraiment les deux éléments de la perception de notre corps dans l'espace, de comment on est situé. Et ça, c'est vraiment au niveau du mouvement, donc du vestibulaire. Et au niveau de la proprioception, on a aussi vraiment comment on ressent notre corps aussi. C'est vraiment deux façons d'interpréter. Donc, exemple, quand on lit et qu'on a la sensation de s'appuyer, exemple, sur nos bras ou de taper du pied, bien ça, c'est notre système proprioceptif qui nous fait nous ressentir. On est là. Je suis physiquement ici. Quand je m'appuie sur la table, je sens que je suis ici présentement. Au niveau du système tactile, c'est vraiment lui qui se développe en premier chez les bébés, les jeunes enfants. Il va dans le fond se développer au niveau en fonction de l'âge de l'enfant, puis il va permettre d'acquérir ce qu'on appelle la conscience corporelle. Et c'est lui aussi qui va être à la base de plusieurs habiletés motrices chez les enfants, habiletés de planification motrice aussi, qu'on va parler un petit peu plus en profondeur tout à l'heure. Donc, c'est les activités quotidiennes de l'enfant qui vont permettre de développer ça. À titre d'exemple, au niveau de l'alimentation, la texture des aliments vient en lien aussi avec le système tactile, pas seulement au niveau du goût que l'aliment a, ou au niveau olfactif. On sait qu'au niveau des aliments, on a beaucoup ça fonctionne beaucoup avec ce système-là aussi. Mais la texture va aussi être, exemple, la douceur des barbouillettes qu'on va utiliser pour laver l'enfant, le savon, l'eau qu'on va recevoir sur nous, mais aussi plus tard, commencer les tâches académiques, que ce soit l'utilisation de la pâte à modeler, le bac à sable, marcher dans l'herbe, c'est tout le système tactile qui est en lien à ce moment-là. Au niveau du système tactile aussi, ça pourrait vraiment différer de quel jeu je vais vouloir utiliser ou pas, parce que selon les types de jeux, je peux avoir différentes textures que je vais aimer ou pas, que je n'ai pas vraiment envie. Il y a des enfants qui n'aiment pas du tout ça, jouer avec la pâte à modeler, parce que certaines sont plus collantes, etc., puis ils n'aiment pas le feeling que ça a. Ça pourrait aussi interagir, le système tactile, avec la relation que j'ai à entrer avec les pairs. Si j'ai de la difficulté à toucher, je n'aime pas nécessairement ça, recevoir des câlins. J'aime pas nécessairement ça, plus tard, donner des poignées de main parce que je dois entrer en contact physique avec l'autre personne. Au niveau de nos muscles, la proprioception, ça nous permet, dans le fond, de recevoir les informations à travers nos muscles et toutes nos articulations. Ça nous aide aussi à développer la conscience corporelle. Puis ça va informer l'enfant sur la position de son corps, des parties de son corps à l'intérieur de son corps, mais dans l'environnement aussi. Et c'est lui qui nous permet d'appliquer la bonne force physique pour faire les mouvements, déplacer des objets. Donc, c'est lui qui me permet de prendre la bonne force pour prendre ma bouteille d'eau doucement et non pas prendre la bouteille d'eau puis lever. Je donne souvent l'exemple des portes de voiture qu'on claque, qu'on presque arrache dans le cas de ma fille et qu'elle ne ressent pas, dans le fond, vraiment sa force par rapport à ça. Donc, c'est le système proprioceptif qui nous permet d'ajuster notre tâche et notre force en fonction de ce qu'on fait. Ensuite de ça, on a le système vestibulaire qui, lui, est plus au niveau de l'équilibre et du mouvement. Donc, encore une fois, c'est l'orientation dans l'espace des segments de notre corps, mais c'est aussi la direction et la vitesse du mouvement qui est impliquée dans le système vestibulaire. Il va nous permettre, le système vestibulaire, de garder la tête droite et de fixer les yeux au loin. Il va nous permettre de maintenir une position contre gravité également. Je viens juste de mettre ma petite minuterie pour être sûre de ne pas passer tout droit. Modulation sensorielle, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est le processus neurologique par lequel les informations qui ont attrait autant à notre corps qu'à notre environnement, par lequel on va le procéder, sont transmises par les nerfs et sélectionnées, interprétées et organisées par notre cerveau. Oups, je m'excuse, je suis toujours en train de glisser ma souris, puis pas de la bonne façon. Ça doit être le samedi matin qui me fait ça. Bon, je suis retournée à la bonne place. Et donc, c'est comme je disais, le cerveau qui organise, qui interprète, qui va sélectionner, mais en fait, qui va nous permettre de produire un comportement qui est adapté, le mouvement qu'on a à faire dans une situation X, Y ou Z. Ce concept-là a été vraiment, dans le fond, élaboré et vraiment développé par Jane Ayers, une ergothérapeute américaine. Puis elle s'intéressait vraiment particulièrement à tout l'impact que le système sensoriel a sur, justement, la planification motrice qui nuise aux activités quotidiennes puis à l'apprentissage des enfants en bas âge, mais qui nuit aussi plus vieux, là, parce que si on a un trouble de modulation sensorielle, ça peut nuire toute la vie, c'est pas juste les enfants qui en sont atteints. La plupart d'entre nous, ça se fait de façon automatique, inconsciente, on n'a pas besoin de faire d'efforts, le système sensoriel se développe. Et donc, dans le fond, ça se développe dans l'enfance, avec les activités qu'on va faire. Plus on a d'activités variées, plus ça va se développer, évidemment. Mais dans le fond, toutes les informations qu'on va recevoir, qu'elles soient positives ou négatives, vont être bien retenues à travers notre corps. Et ça va permettre une très bonne planification motrice. Puis dans le fond, la planification motrice, pour l'expliquer un peu, c'est dans le fond que ça se fait de façon naturelle. C'est que mon cerveau sait comment aller faire un mouvement. Il n'y a pas besoin de penser. Je n'ai pas besoin de penser. Exemple, si je veux ramasser mon crayon, je n'ai pas besoin que mon cerveau dise « OK, épaule bouge légèrement, coude bouge et vas-y, prends le crayon. » Tu sais, le cerveau fait ça de façon naturelle. Pour certains enfants, cette planification-là, elle ne se fait pas naturellement. Donc, c'est des enfants qui ont beaucoup plus de difficultés, des enfants qui vont être un petit peu maladroits, en fait, pour la plupart du temps. Et dans le fond, le traitement des stimuli sensoriels, sans les efforts, ce que ça permet d'être, c'est vraiment d'être calme, d'être alerte, d'être concentré pour apprendre, pour travailler. Ça, c'est quand tout va très bien. Par contre, parfois, il y a des cas de mauvaise interprétation. Donc, le processus est inefficace, il exige des efforts, il exige qu'on porte une attention particulière. Puis à ce moment-là, on peut parler de trouble d'intégration sensorielle ou de modulation sensorielle. Et maintenant, on a aussi le trouble de traitement sensoriel. En fait, c'est les termes qui ont évolué dans le temps, mais ça veut tout dire la même chose, finalement. Les difficultés, donc, sont souvent sous-jacentes aux enfants, aux adultes qui ont des difficultés, qui ont d'autres diagnostics, que ce soit un TDAH, que ce soit de l'autisme, de l'anxiété, des troubles d'apprentissage, des troubles de comportement. Il y a souvent des difficultés sensorielles qui y sont reliées. Ceci étant dit, on n'a pas nécessairement besoin d'une étiquette de trouble de traitement sensoriel pour en ressentir. Parce que dans le fond, on peut tous vivre des erreurs d'interprétation à un moment ou à un autre. Puis c'est souvent relié, que ce soit, exemple, à la fatigue, à l'anxiété, à plusieurs éléments qu'on a dans nos vies, finalement, qui font qu'on n'a pas nécessairement une bonne interprétation. Alors, j'ai une autre petite vidéo qui est intéressant à regarder. C'est pas très long et qui va nous donner de l'information là-dessus un peu aussi, à un autre niveau.
Les passes des joueurs en blanc. Concentrez-vous bien parce que il ne faut pas vous tromper. Retenez bien le nombre de passes. Maintenant, vous allez regarder la même vidéo, mais sans compter.
Alors, ce que ça nous donne, c'est une belle présentation qui nous dit que... on entend crier à côté de la même... En même temps que ça faisait du bruit. Dans le fond, le cerveau, est-ce qu'il peut faire deux choses à la fois? La réponse, c'est non. Mais ceci, c'était pour illustrer aussi qu'au niveau sensoriel, que si on a une difficulté sensorielle et qu'on est concentré sur cette difficulté sensorielle-là, c'est vraiment très difficile de se concentrer sur son problème de mathématiques ou sur l'apprentissage d'une règle de grammaire en français, pour un exemple. Alors, le système sensoriel qui fonctionne de façon normale, bien, tout va bien. J'ai pas besoin d'être ici, on était toujours comme ça. Par contre, quand le système fonctionne de façon exagérée, on va parler, dans le fond, d'hypersensibilité ou d'hyper-réactivité. C'est deux termes qui sont utilisés. Les enfants qui ont une hypersensibilité sensorielle, c'est un système nerveux qui perçoit trop facilement ou intensément les stimuli qu'il reçoit. Donc, il est comme submergé par une foule d'informations sensorielles. Dans le fond, ils perçoivent tout trop vite, trop fort, tout est trop brillant. Des exemples qu'on a tous peut-être déjà expérimenté, si on a eu un robinet qui fuit. Tu sais, la petite goutte qui fait touc, touc, touc. La plupart du temps, on serait capable de l'enlever de notre esprit. Mais pour une raison X, si on essaye de s'endormir puis qu'on entend le touc, 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 tout ce qu'on entend, c'est ça, et on est incapable de se concentrer sur autre chose, on veut juste l'arrêter, la fameuse goutte. Donc ça serait au niveau de Louis. Au niveau de la vision, des sensations, d'exemple, de soleil désagréable. Et ici, on n'a pas le soleil encore, mais je vois qu'il y a des toiles exprès pour justement filtrer les rayons du soleil. Parce que parfois, exemple, le soleil qui va venir faire une réverbération sur un pupitre, bien, ça pourrait être extrêmement dérangeant pour certains d'entre nous. L'odorat, donc, on pourrait vraiment avoir beaucoup de difficultés quand on est hyper sensible au niveau de l'odorat. C'est qu'on pourrait carrément refuser certains aliments justement à cause de l'odeur. On veut même pas essayer de la porter à la bouche, d'essayer, parce que c'est trop fort comme sensation. quand on est hypersensible pour goûter, bien souvent, c'est des enfants qui vont vouloir manger seulement des pâtes blanches, sans saveur, du pain blanc, du riz, pas trop d'épices, pas trop de goûts différents, parce que justement, je vois des gens qui font des figures, parce que ça nous allume des choses, hein? Donc, ça peut être une des raisons. Quand on est hypersensible, on veut que ça goûte le moins possible, parce qu'on goûte déjà trop de façon naturelle. Ça se pourrait aussi, ça pourrait être un autre exemple tout à fait. au niveau tactile, j'en ai donné des exemples tantôt en début de présentation, mais c'est des enfants qui vont refuser, exemple, de marcher dans le gazon, refuser le bac à sable, qui vont être très, très, très sélectifs avec les aliments, donc mou, pas de gruau. La piscine, là, oubliez ça, c'est pas le fun parce que je vais recevoir des gouttes d'eau. Donc, encore une fois, c'est mon système tactile qui perçoit trop. Exemple aussi des enfants que, tu sais, laver les cheveux, ça devient extrêmement difficile parce que, justement, là, je vais avoir de l'eau, je vais avoir du savon en plus. C'est comme, vraiment pas intéressant. Ça va être aussi la fameuse étiquette dans un vêtement, une étiquette qui nous gratte vraiment puis qu'on n'est pas capable de s'en défaire. Mais cette fameuse étiquette-là, comme je disais tout à l'heure, si on est plus fatigué, parfois c'est un vêtement qu'on a porté des dizaines de fois, mais que cette journée-là, elle passe pas. Tout ce qu'on veut faire, c'est prendre une paire de ciseaux puis l'enlever. Donc ça, c'est de l'hypersensibilité. Au niveau vestibulaire, donc au niveau de la coordination motrice, c'est des enfants qui vont éviter tout ce qui demande d'avoir un bon équilibre. Grimper dans les modules au parc, quand les pieds quittent le sol, ils n'aiment vraiment pas ça. Ils vont éviter donc les balançoires, ils vont être facilement étourdis. C'est des enfants qui pourraient avoir le mal des transports aussi, parce qu'ils ont de la difficulté avec leur système d'équilibre, ils ressentent trop fortement. Les gravoles fonctionnent très bien pour le mal des transports et ne pas manger avant. Mom tested. c'est arrivé extrêmement souvent que tu cherches un sac. Finalement, c'est le sac à main. j'ai des flashs de souvenirs pas très intéressants, mais bon. hyposensible maintenant. Dans le fond, quand mon système nerveux ressent de façon diminuée, il ne ressent pas assez les stimuli, autant provenant de son corps que provenant de l'environnement. Donc, des enfants hyposensibles sont souvent plus calmes, plus passifs. Dans le fond, ils semblent souvent pas avoir d'énergie, pas vraiment motivés dans leurs activités quotidiennes. Pour se sentir bien puis disposés à travailler ou à apprendre, les enfants ont besoin de plus de stimuli. Eux, il faut qu'on leur en donne pour les réveiller. Alors, au niveau de l'ouïe, c'est des enfants ou des adultes qui vont aimer les bruits forts, la musique qui est forte. Tu sais, quand ça fait boum-boum, c'est le fun, ça me réveille, j'aime ça, je suis là, je suis stimulée, je suis présent. Moi, je fais ça dans ma voiture. J'ai déjà brisé des speakers de voiture. Je les ai carrément défoncés parce que j'écoutais la musique trop fort. Mais tu sais, je faisais Montréal-Québec souvent, puis j'avais comme vraiment hâte d'arriver, puis j'étais comme fatiguée. Donc, c'était une façon de me stimuler. Je le recommande pas nécessairement, mais bon, c'était un exemple personnel. au niveau de l'odorat, donc, c'est des enfants qui vont pas vraiment bien sentir. Donc, souvent, ça peut avoir une implication sur leur alimentation, mais c'est plus qu'ils ne ressentent pas. Donc, tu sais, eux, ils pourraient oublier leur déodorant, ils ne se rendront pas compte qu'ils ont un problème, exemple. Ils ne vont pas sentir nécessairement ce qui se passe alentour, ça ne va pas les incommoder. Par contre, au niveau de la vision, dans le fond, tu sais, ils pourraient, exemple, sortir dehors, journée plein soleil, aller à la plage, la mer, la réverbération, aucun problème, pas de lunettes de soleil, ils sont confortables, ça ne leur dérange pas. Ils vont aimer ce qui va briller, ce qui va être très stimulant aussi à ce niveau-là. Au niveau tactile, c'est des enfants ou des adultes qui ne vont pas ressentir la douleur. Mais tu sais, être insensible à la douleur, ça peut vraiment être une problématique qui peut être à plusieurs niveaux. Je vous donne un exemple personnel qui était avec ma fille quand elle avait 3 ans. J'avais acheté une nouvelle paire de petits espadrilles, tu sais, 3 ans. Puis j'étais là, c'est cute, c'est une nouvelle, tu sais, une journée comme au mois de juin, comme ça, les premières chaleurs. Les petits espadrilles, va jouer au parc, plein d'affaires. Reviens, enlève les espadrilles pour rentrer dans la maison. Et là, je me rends compte qu'elle a une ampoule derrière, mais tu sais, qui est grosse comme une pièce de 2 $. Et elle n'a jamais rien dit. Elle n'a rien senti, ça y a pas fait mal, rien du tout. Mais quand on a de la difficulté au niveau tactile, tu sais, c'est aussi la porte du four qui est chaude, que je ne ressens pas qu'elle est chaude. c'est aussi, je vais dehors à moins 30 l'hiver, puis ça ne me dérange pas de sortir sans mitaine, sans foulard. Je ne le sens pas qu'il fait froid au niveau tactile. Fait que ça, c'est des choses à prendre en considération parce que ça peut avoir des incidences dangereuses parce qu'il ne ressent pas le froid ou le chaud. Pardon?
Il y a un côté culturel avec ça. Dans le sens où, moi je sais qu'en tant que garçon, on me disait de ne pas ressentir la douleur. Je me suis fracturé le poignet pendant 3 jours. Jamais dit que j'avais mal. Et ensuite, en allant à l'hôpital et en réalisant que c'était... Donc, je sais qu'il y a aussi un côté culturel.
Ben, c'est possible, oui. Il n'y a pas juste le sensoriel.
La sensibilité des goûts, il y a un côté culturel.
Je suis d'accord avec vous.
Il y a une tendance à mettre une emphase sur certains...
Bien, c'est clair. Je veux dire, les enfants qui sont élevés en Inde ont beaucoup plus de goûts qui sont beaucoup plus forts que les enfants qui sont élevés ici, tout dépendant les cultures. Et ça, je suis d'accord avec vous, là, c'est clair. Et de toute façon, quand je parle de sensoriel, je ne parle pas qu'il n'y a que ça et que le restant de la vie n'existe pas. Je pense que c'est important de le noter aussi. Donc, tactile, le système tactile, c'est aussi à l'intérieur de notre corps. Un enfant qui ne ressent pas le besoin d'aller aux toilettes. Je ne l'ai pas senti. Je ne ressens pas physiquement que ma vessie est pleine et que c'est le temps d'y aller. Ou autre chose. Ça peut être le système tactile qui est en compte. Ce n'est pas juste un apprentissage, mais on va ressentir notre corps à l'intérieur aussi. C'est des enfants qui ne vont pas sentir qu'ils ont les mains sales, qui ne vont pas sentir qu'ils ont de la nourriture ici. Oui, madame?
Est-ce qu'on peut être hypersensible
sur certains sens et hypo-sensible? Tout à fait. C'est pas une catégorie et voilà, je suis hypersensible dans tout, je suis hyposensible dans tout. Et ça peut dépendre des situations, ça peut dépendre du stress, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Le sensoriel, je le dis plus tard, mais je vais le dire maintenant pour le bénéfice de bien comprendre, c'est que le sensoriel, malheureusement, c'est pas quelque chose comme une prescription qu'on a quand on prend un antibiotique, que ça prend tant de doses et c'est... On est certain que ça va régler la problématique qu'on a. Le sensoriel, c'est beaucoup d'essais-erreurs et chaque être humain est différent. Et chaque être humain est différent non seulement de par sa configuration, mais par son niveau de stress, son niveau de fatigue, comment il se sent, y a-t-il vécu des... Tu sais, je veux dire, est-ce que les parents viennent de se séparer, etc. Tout ça est en lien, en fait, avec le sensoriel. Peut avoir une influence. Au niveau vestibulaire, donc notre fameux système d'équilibre, je disais tout à l'heure, quand tu es hyposensible, donc c'est le contraire de ton hyper. C'est-à-dire que toi, tu vas rechercher. Donc, tu as des enfants qui vont chercher des activités qui sont risquées, qui sont téméraires. Donc, c'est eux qui sont casse-cou, puis qui grimpent partout, puis qui sont plus difficiles à arrêter. Des enfants qui vont aimer les manèges, exemple, aller à la ronde, c'est vraiment trippant. Là. C'est parce que ça me donne une sensation, je ressens enfin quelque chose. Les balançoires, c'est jamais assez haut, c'est jamais assez fort. Dans le fond, ils vont sembler, ça peut aussi être quand ils sont toujours en mouvement, mais ils peuvent aussi sembler malhabiles à certains moments, parce que même s'ils sont casse-cou, ils peuvent aussi mal utiliser leur système. Proprioceptif, donc maladroit quand t'es hypo, ça peut aussi causer des difficultés au niveau de la motricité fine, la motricité globale. Quand on se sent pas bien dans son corps, qu'on le ressent pas correctement, ben dans le fond, on peut pas l'utiliser adéquatement. Ça pourrait aussi prendre la mauvaise force pour les objets. Je dis que c'est lui qui contrôle la force. Donc, je donne des exemples concrets. Dans le fond, tantôt, je l'ai dit, exemple, la porte de la voiture. Mais aussi, en motricité fine, comment je prends mon crayon. Si je prends mon crayon et que j'appuie très, 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 très fort, tu sais, là, j'ai tous les doigts crispés, bien, c'est peut-être parce que je ne le ressens pas comme il faut, justement. Ou à l'inverse, très, très doux, je pèse à peine sur mon crayon parce que je ne ressens pas comme il faut, la force que je dois utiliser. C'est des enfants qui peuvent se bousculer, exemple, à l'école, exemple, des enfants qui vont se bousculer dans les rangs, au niveau social. Des fois, ils peuvent entrer dans notre bulle. T'sais, des gens qui approchent trop de nous, mais des fois, c'est parce qu'ils ne ressentent pas nécessairement la bonne distance. Ils n'ont pas une bonne conscience corporelle. Donc, ça, c'est des choses. Donc, on a vu hyper, je ressens trop les stimuli, et hypo, je ne les ressens pas assez. Alors, tout ça va avoir un impact sur les autres choses qu'on va faire. Alors, dans le fond, on peut avoir des comportements désagréables ou négatifs en lien avec ça. Que ça soit la résistance au changement. Hein, moi, j'aime pas ça changer. Quand je suis bien dans une affaire, puis je suis souvent mal à l'aise quand j'essaie des nouvelles choses, j'ai pas envie. Donc, je résiste. Je suis plus stigmatisée là-dedans. Ça peut limiter mon attention, évidemment, si je suis toujours en train de penser à mon étiquette dans le dos. Je peux avoir de la difficulté à m'organiser. un faible respect des consignes. Je n'ai pas vraiment envie de respecter la consigne parce que moi, je respecte ma consigne à moi dans laquelle je suis bien maintenant et je n'ai pas envie de bouger. L'agressivité, comme je disais tantôt, pousser tout ça. Et souvent, c'est que ça va créer de la faible estime de nous-mêmes, de ces enfants-là. Parce qu'en fait, quand tu ne te sens pas bien, tu as l'impression de toujours vivre des échecs. Si tu n'es pas bon dans ta planification motrice, tu as de la difficulté en motricité fine ou motricité globale, à un moment donné, ça peut devenir plus difficile. Alors, dans le fond, on voit bien que le système sensoriel a vraiment des impacts sur les capacités attentionnelles des enfants et des adultes. Puis, dans le fond, c'est qu'on peut utiliser vraiment, il va y avoir de la compensation qui va se passer avec la sous- ou la surutilisation de différentes façons. Donc, exemple, on va utiliser nos sens pour demeurer attentif. Donc, exemple, je vais bouger tout le temps. Je vais porter des objets à ma bouche, tu sais, ceux qui mâchouillent leurs crayons puis de façon assez intensive.
Ceux qui rongent leurs ongles
est un autre exemple excellent là-dessus. Manipuler, gribouiller. Tu sais, exemple, quand on parle au téléphone, qu'on va toujours gribouiller, bien souvent, c'est une façon de se garder actif et de se permettre de bien se concentrer. Ceux qui sont toujours, exemple, sur deux pattes de chaise, aussi, c'est un autre exemple de j'utilise mon système vestibulaire, dans le fond. Je m'en viens faire du mouvement pour me garder alerte, pour être capable de me concentrer. Ensuite de ça, ce qui va se passer quand ça ne fonctionne pas super bien, c'est que je vais mal interpréter ce qui provient de l'extérieur. Donc, pas nécessairement ce qui est dans mon corps, mais ce qui provient de l'extérieur. Et donc, je vais avoir de la difficulté à me concentrer avec du bruit. Je n'ai rien, bébé qui gazouillait tantôt, je n'ai rien contre lui. Mais moi, j'avais de la difficulté à focusser sur ce que je devais dire parce que j'entendais bébé qui était là. C'est juste pour vous donner un exemple qui est très, très concret. Je vous demande pas de sortir du tout. Soyez-en certaines, ce n'est pas ce que je disais. Mais je voulais juste le donner parce que quelqu'un qui va, exemple, tu sais, t'as pas à côté de toi, mais il s'en rend pas compte. Ou c'est un crayon qui fait clic-clic. Bon, ben, tu sais, ça va aider la personne qui fait clic-clic, mais l'autre à côté qui trouve ça, tu sais, qui lui, c'est pas capable de se concentrer. Ça vient le déranger. Donc, dans le fond, il faut vraiment réaliser que parfois, il y a des choses qui proviennent de l'extérieur de l'environnement, qui des stimuli qui peuvent venir nous affecter, et parfois, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, dans le fond, la prochaine diapo, elle est en lien, c'est une autre petite vidéo assez rapide. Plusieurs peuvent avoir des difficultés à traiter les informations sensorielles multiples qui nous arrivent en même temps. Dans le petit film, ce qu'on va voir, dans le fond, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a une surcharge sensorielle, quand il y a trop de stimuli qui se passent dans la journée d'une personne. Alors, c'est une petite vidéo qui avait été créée pour ramasser des fonds pour l'autisme, entre autres, mais ça s'applique très bien à la plupart d'entre nous pour vraiment bien comprendre la surcharge.
Alors, le son n'était pas très fort. Habituellement, quand on a des bons speakers, le son est beaucoup plus fort pour... C'est déjà stressant, effectivement. Effectivement. Dans le fond, ce qu'on a vu ici, évidemment, certains d'entre vous pensent probablement que ça se peut pas, qu'il y ait autant de choses qui viennent agresser. Évidemment, c'est un peu à l'extrême, on s'entend. Mais il y a vraiment des enfants qui ressentent ça à l'extrême. Il y a des enfants, moi, je vous donne un exemple de ma fille qui a de la difficulté au niveau sensoriel. Rendue à bientôt 15 ans, il y a beaucoup de choses qui ont eu des améliorations. Il y a des choses sur lesquelles on a travaillé, puis elle n'a plus de meltdown comme ça. Marie, elle peut en avoir quand elle est trop fatiguée. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'à la fin de la journée, les enfants qui ont trop de surcharge toute la journée, bien, des fois, à la fin de la journée, une petite chose de rien du tout qui fait snap, puis là, ça y est, c'est la désorganisation totale tout d'un coup. Donc, c'est pour ça que je montre la vidéo, parce que parfois, on oublie que plusieurs choses dans une journée finissent par faire comme une espèce d'accumulation, surtout au niveau sensoriel. Alors, dans le fond, maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait, bien, on va regarder des stratégies puis des façons pour éviter de tomber en surcharge sensorielle et de tomber en totale désorganisation. Alors, dans le fond, la première chose, c'est apprendre à mettre son chapeau de détective. La première partie, c'est pour vous montrer que de nous allumer puis de se poser une question. Si j'ai un comportement X ou Y, est-ce que ça serait possible que ça serait quelque chose au niveau sensoriel qui ne fonctionne pas, qui a une difficulté? Donc, ça, c'est la première chose. Puis de se mettre aussi dans la peau de l'enfant pour analyser son comportement. T'essayer de se mettre un peu à sa place. Des fois, s'enlever du rôle de parent. Non, mais arrête de bouger ou t'es donc maintenant, pourquoi t'écoutes pas ce soir? On a tous ça comme parents, que ça nous arrive. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. De perdre un peu patience en disant, non, comment ça que t'es pas capable de te concentrer? Ensuite de ça, une fois qu'on a évalué que peut-être ça pourrait être du sensoriel, on va regarder des stratégies qui peuvent être utilisées autant à plusieurs qu'en individuel. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est développer ce qu'on appelle l'autorégulation. Donc, la capacité à maintenir un bon niveau de vigilance puis à accomplir nos tâches qu'on a à faire. Ce qu'on veut, c'est augmenter ce qu'on appelle la disponibilité pour favoriser un retour au calme si on est vraiment dérangé par une activité. Puis, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir solliciter nos récepteurs proprioceptifs et vestibulaires. C'est eux qui viennent agir sur le côté calmant et de mieux se concentrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réveiller les hypos, donc ceux qui ne ressentent pas assez, puis on va venir apaiser les hypers, ceux qui ressentent trop. Comme pour retrouver un peu un juste milieu, un balancier finalement. Alors, comment on va faire ça? Une des premières choses, c'est la gestion du temps. La gestion du temps permet, exemple, avec un chronomètre comme celui-ci, un chronomètre qui est visuel, permet, même sans savoir lire l'heure, de contrôler le temps que j'ai pour faire une tâche. Oui?
Moi, je l'utilise à la maison. Mm-hmm. Puis, il y a bien des affaires qui ont ça s'est réglé.
Ça aide énormément.
Entre autres, la pratique de piano, là, interminable, qui me fait plus. Juste de mettre ça, ça réglait bien les affaires.
Mais ça règle, c'est-à-dire que je sais quand mon activité commence et elle finit. Je peux même venir, comme c'est on peut utiliser les crayons effaçables, on peut même dire que quand la tâche a commencé, pour que l'enfant voit vraiment la tâche qui diminue. Dans le fond, le rouge qu'il fait, c'est qu'il me dit, puis là, dans mon cas, à moi, il me dit qu'il me reste 12 minutes de présentation. Donc, j'ai pas besoin de regarder ma montre ou de regarder l'horloge. Je le mets ici, puis par la petite quantité de rouge que je vois, je suis capable, en un snap, vraiment, de voir facilement qu'il me reste pas tant de temps que ça. mais ensuite, ce que ça permet, il y a le tintamarre évidemment, il y a des sabliers, mais il y a aussi l'utilisation d'un horaire visuel qu'on adapte selon l'âge de l'enfant. Moi, je donne souvent comme exemple, je suis chef d'entreprise, j'ai beaucoup de choses, mais si je n'avais pas mon Outlook, puis je ne savais pas visuellement ce qui s'en vient dans ma journée, puis je n'avais pas regardé qu'est-ce que j'ai à faire, puis que les gens pas près dans mon bureau, « Bonjour, réunion marketing! » Karine, tu as un lunch avec ça, puis tu sais, ça pas prêt comme ça au fur et à mesure, sans que je sache ce qui s'en vient. Je pense que je serais pas ici aujourd'hui pour en parler, parce que je serais vraiment dans un état qui a pas d'allure. Donc, dans le fond, c'est de réaliser que ce qu'on veut pas, nous, comme adultes, qui nous arrive, c'est peut-être de permettre à l'enfant aussi d'avoir, de savoir ce qui s'en vient dans sa journée. Puis après ça, bien, il y a différentes façons de le faire, de l'utiliser, l'agenda visuel. Moi, je l'ai en couleur parce que moi, ça m'aide de savoir. J'ai mis des couleurs par département chez nous, puis comme ça, c'est plus simple, mais ça peut être la même chose pour les activités des enfants. Mais ça peut aussi être plus tard. Exemple, avec ma fille, nous, ce qu'on fait, on appelle ça le plan de marche de la journée le week-end. Donc, on écrit tout ce qu'on va faire dans notre journée, puis on laisse des places pour un point d'interrogation. Ça se peut qu'il pop quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Puis ça, c'est important pour éviter les enfants qui sont plus rigides, là, pour ne pas être coincés dans un horaire qu'on ne peut pas mettre de point d'interrogation comme ça au moment de la journée. Mais aussi, on peut biffer comme quoi c'est terminé la tâche aujourd'hui. Donc ça, ça permet vraiment, en fait, de diminuer les angoisses, puis de faire, dans le fond, nos tâches dans les délais qui sont prévus. Diminuer l'anxiété qui est reliée à ça, ça permet aussi de faire des meilleurs apprentissages. Vous l'avez dit pour la leçon piano, bien, quand je sais exactement combien de temps je consacre à ma leçon piano ou à mon devoir de français, puis qu'après ça, je peux passer, puis je peux aller jouer à mon jeu vidéo ou regarder la télé ou jouer dehors, j'ai plus de contrôle, c'est moins fatigant, je le sais que je vais pouvoir faire autre chose après. Donc, dans le fond, pour tous les enfants, là, que c'est vraiment bénéfique d'avoir une bonne gestion de temps, ça diminue vraiment l'anxiété, peu importe qu'on ait des difficultés sensorielles ou pas. Une petite pause sensorielle. Ça, c'est ce que je préfère. Je trouve ça hyper facile à faire. Peu importe le degré, l'âge de l'enfant, le degré de complexité, on peut vraiment l'adapter. Dans le fond, on peut faire des push-ups contre un mur. Tu sais, exemple, je vais faire des push-ups, mais debout. Donc, en faisant ça, je viens activer tout mon système proprioceptif parce que je viens travailler au niveau de mes muscles, mes articulations. Et ce que ça permet, c'est vraiment, encore une fois, le retour au calme, bien aligner là, ma petite traque sensorielle, la remettre au bon endroit. Des pressions profondes. À titre d'exemple, je vais vous demander de le faire avec moi pour le ressentir. On va prendre notre bras gauche qu'on va tendre devant nous et on va prendre notre main droite et on va venir se faire des pressions profondes, juste comme ça, là. On n'est pas des masseurs professionnels, là. On y va, puis on y va, puis on y va fort. Plusieurs fois de suite. Bon, 3-4 fois, c'est bon. Maintenant, mettez vos bras de chaque côté. Y a-t-il un bras que vous sentez mieux que l'autre? Celui qu'on vient de faire, des pressions profondes, on le ressent beaucoup, beaucoup plus que l'autre. Et là, on l'a fait juste un petit peu. Maintenant, le système sensoriel fonctionne des deux côtés. Si je vous laisse comme ça, vous allez être inconfortable. Fait que là, vous allez le faire de l'autre côté. C'est vraiment un principe en ergothérapie. Si on ne le fait pas, vous pourriez vraiment ressentir de la désorganisation puis être très, très inconfortable le restant de la journée. Je ne voudrais pas ça. C'est votre première conférence. Ça serait vraiment une très mauvaise idée. Donc voilà, c'est fait. J'ai les deux côtés. Donc, des activités de massage. Ça peut être super bon. On n'a pas besoin d'être des masseurs professionnels. Juste de faire justement les pressions profondes un peu partout par un massage, ça va aider à bien ressentir son corps. Faire de l'activité physique, évidemment. Bien, c'est ça. Il va falloir travailler là-dessus. Il faut savoir. Mais exemple, un enfant qui n'aime pas se faire toucher, on va peut-être faire des sauts à la corde. T'sais, on va faire autre activité. Exact. C'est pour ça que moi, je donne plusieurs activités. Puis je me dis, il faut trouver ce qu'il aime là-dedans, mais qui va venir cet effet bénéfique-là. Parce qu'il peut le faire lui-même aussi. On va en pratiquer aussi, dans le fond, ce qu'on peut faire comme activité pour au niveau sensoriel, mais de le faire pas nécessairement par quelqu'un d'autre, mais par soi-même. Des fois, c'est plus facile. Donc, nous, ce qu'on faisait par l'ergothérapeute, c'est qu'on faisait des pressions profondes. Donc, exemple, je mets mes mains comme ça, vous pouvez le faire en même temps. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire 5 fois et j'appuie très, très fort. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je peux répéter comme 5 fois, 5 fois. Et là, je viens d'avoir, au niveau sensoriel, je viens d'avoir tout activé, mes récepteurs proprioceptifs ici. Et ce que je peux faire aussi, je peux le faire en tirant de cette façon-là aussi. Même principe, 5 fois 5.
Oui, c'est ça.
Très bon pour les muscles du haut du corps.
Oui, voilà.
Voilà. C'est pas moi qui le dis. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est des étirements. Des push-ups sur chaise, hyper facile à faire. J'ai pas de chaise parce qu'on manque de chaise, mais je vais le faire sur un bureau, ça va faire pareil. Oui, un pantalon blanc, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon, trop tard. Donc, je vais mettre mes mains sous mes cuisses et je vais soulever. Un. Non, mais je vais le faire aussi, là. Je suis seule à faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, On reste. Quand on fait ça, on vient de se faire un peu comme des mini-activités physiques quand on ne peut pas faire de vraies activités physiques, exemple de sortir dehors et de jouer. Mais c'est important. Transporter des objets lourds, ça peut aussi faire cet effet-là. Et des objets lourds, ça peut être de transporter des bouteilles d'eau, ça peut être de transporter un ballon lourd, ça peut être transporter à peu près n'importe quoi. Donc, en faisant des petites activités et des pauses régulièrement, on vient, dans le fond, couper la routine d'apprentissage papier-crayon et on permet aux enfants d'avoir une meilleure autorégulation, dans le fond. Oui?
Ça, dans le fond, c'est plus dans le cadre de ceux qui ont hyposensibilité ou bien...
Autant hypo que hyper. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que les activités, autant pour un que pour l'autre, viennent réguler et viennent remettre le balancier dans le milieu. Il n'y a pas nécessairement de durée, mais tu sais, moi, je dirais une petite pause de 10 minutes, mais tu sais, exemple, les activités de pression comme ça, on avait quelques-unes à faire, elle avait comme 3 séries, ma fille, à faire. Elle faisait quand elle allait aux toilettes, parce qu'elle ne voulait pas le faire devant les autres. Donc, elle allait aux toilettes pendant qu'elle était, puis ça ne paraissait pas du tout, était comme... Fait que c'est pas très long, mais c'est plusieurs fois dans la journée, dans le fond, qu'on va faire ça.
Là, vous faites des choses que les enfants aiment. Est-ce qu'il y a la possibilité de conditionner les enfants à faire des choses dont ils ont besoin, comme la méditation, par exemple?
Oui, je ne vois pas pourquoi. Mais moi, je suis plus du... je ne dis pas que méditation, ce n'est pas bon. D'ailleurs, j'arrête pas de me dire que je devrais essayer d'en faire un peu plus. Mais moi, je suis plus de type jogging. Donc, je fais mon jogging tous les matins. Donc, ça m'aide parce que je sais qu'au niveau sensoriel, ça fonctionne. Donc, votre rapport à la méditation, je pense que c'est quelque chose de très bon et qui pourrait être ajouté. Mais je pense que quand les enfants qui ont beaucoup de difficultés à rester en place, je ne suis pas sûre que si on leur propose, on va méditer... 3 minutes, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Si on leur propose de sauter, ça risque de peut-être avoir un impact plus rapidement et après être en mesure de faire une autre activité. Moi, c'est comme ça que je l'aurais vu.
Le corps, c'est le truc le plus concret aussi.
Exactement. Pour les enfants, c'est plus concret, tout à fait.
J'ai une question pour vous. Moi, j'ai un enfant qui n'est pas capable de rester assis. Qui n'est pas capable de rester assis. Puis, elle me dit, même pour manger, là.
Oui.
Elle a toujours une patte sortie, puis tout ça. Mm-hmm. Puis à un moment donné, elle-même me dit, « Maman, moi, j'aime mieux travailler debout.
Mm-hmm. » Okay. Vous me devancez. En fait, position de travail variée est très importante. Oui.
J'avais un bon exemple d'activité qui n'aime pas au départ. Ma fille, avant, mettons, là, 2-3 ans, je lui exigeais d'aller courir une fois autour de la maison. Ça ne tentait pas du tout, mais je savais que c'était bon pour elle. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, elle est rendue à 11 ans. C'est elle-même qui va dire, maman, je m'en vais courir autour de la maison. Puis là, je dis qu'elle, justement, il faut que je teinte, parce que là, finalement, je la vois pas parce qu'elle veut pas revenir s'asseoir, mais au départ, c'est pas une activité qu'elle aimait.
C'est ça, mais souvent les enfants, quand on réussit à les faire, bon, certaines activités et qu'ils se rendent compte du bien-être que ça a, ils finissent par vouloir le faire eux-mêmes, puis ils vont chercher les outils dont ils ont besoin. Moi, je le vis. J'ai vécu dans plusieurs salles de classe aussi avec des enseignants qui ont introduit justement des petits coins sensoriels, des coins de détente, des coins où, tu sais, le bac où les enfants peuvent aller piger des outils à utiliser. Et les enfants qui en ont besoin vont les utiliser, en fait. Puis là, je manque vraiment de temps. Soit je parle trop lentement ou soit j'ai l'habitude de donner la conférence en 2 heures. Il y a peut-être un peu des deux. Donc, position de travail variée, n'hésitez pas. Si votre enfant aime ça, travailler debout, bien, on peut faire des activités debout. Pourquoi, exemple, qu'on ne pourrait pas s'asseoir dans le sofa pour faire une lecture, même si elle est académique? Pourquoi, quand on parle d'académique, automatiquement, on pense petit bureau et chaise droite? Moi, quand je lis, souvent, j'aime ça être confortable. Je prends mon fauteuil préféré puis je lis, même si je lis des choses qui sont des documents d'affaires, des documents plus complexes. Se coucher sur le ventre, soyez créatifs, en fait. Parce que plus on va leur permettre d'être confortables dans leur corps, plus on va avoir des bons résultats pour justement des activités qui demandent, qui doivent être faites et qui sont souvent des tâches qui sont plus difficiles au niveau académique également. Donc, s'asseoir différemment, bien, on peut le faire de différentes façons, parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Il y a des coussins d'air qui existent, les fameux coussins ici, là, qu'on a deux sortes, des ronds et des en triangle, des mosaïques, des psychocytes. C'est vraiment pratique parce que dans le fond, ce que ça permet, c'est que je suis assis comme j'étais un petit peu sur un ballon, sur un coussin d'air, donc je peux bouger. Je bouge tout en restant assis pour ceux qui ont vraiment cette difficulté-là. Des petits tabourets qui sont oscillants, s'asseoir sur un ballon directement. Toutes des choses qui vont permettre dans le fond, venir activer le système vestibulaire, le système d'équilibre, quand on est en mouvement, et donc de réaligner encore une fois notre balancier. On va avoir exemple fantôme. J'en ai un exemple ici pour vous donner un peu ce que ça a l'air. On manque de temps, donc vous êtes chanceux, je vais vous épargner de rentrer à l'intérieur. Mais en fait, c'est un peu comme si je rentrais, c'est en lycra, donc c'est très extensible. Donc quand je suis à l'intérieur, comme sur l'image ici, je peux pousser. Et ce que ça fait, c'est que le lycra vient faire les fameuses pressions profondes partout sur mon corps en poussant, parce que le tissu vient vraiment me coller partout sur le corps. Donc, un outil qui est très simple, qui est léger, qui se lave à la machine et qu'on peut transporter partout. Pour ceux qui ont des enfants, qui ont vraiment besoin de bouger, c'est un outil que moi, j'ai utilisé beaucoup, même en voyage, je l'apportais, je ne partais jamais sans lui. Et ce qu'il fait, lui, dans le fond, il est touché à quatre sens. Le toucher, la vision, parce que quand je suis à l'intérieur, je me coupe de tout ce qui est, de tout stimuli visuel. Le proprioceptif, les muscles et le mouvement, parce que je bouge en même temps. Au niveau du bruit, évidemment, l'utilisation de coquilles insonorisantes peut vraiment être très, très utile pour certains des enfants. Ça diminue les bruits ambiants, en fait, mais ça n'empêche pas d'entendre ce qui se passe. Évidemment, ça dépend toujours des milieux dans lesquels on est. Je parle dans le milieu, exemple, au niveau familial. J'ai un enfant qui a beaucoup de difficultés avec les bruits, mais je dois aller à la gare, je dois aller à l'épicerie, je dois aller prendre l'avion. L'utilisation de mes coquilles risque d'être vraiment très, très, très pertinente parce que je risque d'éviter une désorganisation complète de l'enfant à ce moment-là. Évidemment, il faut aussi savoir que ce n'est pas quelque chose que je porte toute la journée, tout le temps. Et idéalement, exemple, si je le portais en salle plus de classe, admettons, bien, je l'utiliserais une période X pour en faire un travail qui est plus difficile, qui a besoin de plus de concentration. Mais je dois toujours avoir une bonne visibilité sur l'enfant, puis je ne peux pas l'utiliser tout le temps. Évidemment, ce ne serait pas une bonne idée. Comme tous les outils sensoriels, d'ailleurs. Animaux lourds, les fameux Manimaux. En fait, c'est le premier produit que nous avons créé il y a 15 ans. Est-ce que la plupart sont familiers avec les Manimaux? Quelques-uns, pas tout le monde. Parfait. Alors, dans le fond, Manimaux, c'est un toutou qui est créé, qui est fait avec du lycra, donc qui est extensible. Et sa particularité, c'est qu'il est lourd. Il pèse 2 kg. Et en pesant 2 kg, et en le prenant sur moi, Manimaux vient mettre ses petites pattes et il me fait un câlin. Il me fait des pressions profondes. Je n'ai pas besoin de le toucher. Comme votre enfant, tout à l'heure, vous me dites qu'il avait la difficulté de toucher. C'est Manimaux qui fait les pressions profondes pour l'enfant. Donc, 2 kilos, je peux l'utiliser comme je l'ai. Je vais juste y faire un câlin. Je peux le mettre sur mes cuisses. Donc, je peux travailler à mon pupitre. Je l'ai sur les cuisses. Il me sert de petit outil fidget en même temps avec sa queue. Je peux travailler dedans. Je vais le faire circuler pour que vous puissiez le ressentir, ceux qui ne l'ont jamais eu. Et dans le fond, ce que Manimaux vient faire, c'est qu'en utilisant notre système proprioceptif, il vient nous aider vraiment à allumer justement notre système sensoriel pour vraiment nous aider à maintenir nos capacités attentionnelles. Dans le fond, on va apaiser l'enfant pour lui permettre de mieux ressentir son corps et d'être mieux concentré. Et donc, il existe plusieurs modèles. On est très, très content de vous dire aussi que c'est un produit qui est toujours manufacturé au Québec de façon très importante pour nous. On pourrait aller en Chine, mais on n'a pas le goût. Donc, je préfère le mentionner. Ensuite de ça, gomme, mâchouille. La bouche, est vraiment au niveau de la mâchoire, c'est l'endroit où on a le plus de récepteurs proprioceptifs. Ceux, justement, qu'il faut qu'on allume pour remettre notre système nerveux sur la bonne traque. Donc, l'utilisation de gomme à mâcher peut être très, très, très pertinente. Il y a même des études américaines qui prouvent que les résultats scolaires en situation d'examen sont plus élevés pour les enfants qui ont de la difficulté à se concentrer quand on utilise la gomme à mâcher. Évidemment, ça ne veut pas dire de mâcher de la gomme tout le temps. Ça ne veut pas dire de la coller en dessous n'importe quoi qu'on a fini. Hein, on peut le mettre dans la poubelle, c'est permis. Bien sûr, on a des mâcheux, donc des crayons, des mâcheux pour les crayons, des colliers, etc. à utiliser. Pensez aussi à diminuer le visuel dans la pièce où l'enfant va être. Que ça soit au niveau de mettre des fils de lumière, que ça soit au niveau de diminuer les décorations. Tu sais, des fois, on a comme un environnement trop visuellement dérangeant pour les enfants. Ça pourrait être ça. Alors évidemment, je pourrais continuer longtemps. C'est des choses que je vais passer plus rapidement parce que mon temps est écoulé. On a commencé en retard. les petites balles anti-stress, etc. Qui pour certains, évidemment, vous avez tous entendu parler des spinners. Moi, j'en ai un sur mon bureau. Je l'utilise vraiment de façon efficace et non pas juste comme un jouet. Mais quand on a quelque chose à manipuler dans nos mains, souvent, ça permet justement d'avoir les mains occupées pour être capable de mieux se concentrer. Évidemment, il faut savoir que quand on les donne aux enfants, c'est important que ça devienne un outil, que ça soit expliqué à l'enfant. Parce que si c'est une balle, puis que je l'utilise comme une balle, puis que je la lance, j'ai enlevé l'effet, dans le fond, bénéfique. Ce que ça va permettre, encore une fois, c'est que ça va réveiller nos hippos. Hein? Le fait de manipuler quelque chose va réveiller ceux qui sont trop down, et ça va vraiment calmer nos hyperactifs. Alors, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de s'assurer que l'enfant va utiliser l'outil à bon escient. Donc, on vérifie. Une des façons, est-ce que l'enfant se met à la tâche? Est-ce qu'il est plus concentré? Est-ce qu'il fait mieux son travail? Oui, ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. C'est le sensoriel, il faut faire des essais-erreurs. En terminant, je vous invite à rester informés. FDMT a une page Facebook très active sur laquelle on partage beaucoup d'informations, beaucoup d'articles qui passent. On a un blog également maintenant sur lequel on a des professionnels qui écrivent. On a plusieurs articles, les archives des anciennes, des 10 dernières années sont en train de se mettre. On a le blog depuis fin février, donc on est en train de mettre nos archives également. On a évidemment des comptes Pinterest et Twitter, YouTube également. Je vous dirais sur notre site web aussi, il y a quand même beaucoup d'informations qui est là. Évidemment, on a des produits. Mais je vous dirais, n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez des questions. Comme on manque de temps, on ne pourra pas vraiment passer à travers une période de questions intensives. Mais je vous laisse également ici un petit coupon si vous voulez remplir, vous abonner à notre infolettre, mais en même temps, si vous voulez recevoir le PDF de la formation d'aujourd'hui, vous avez juste à me laisser vos coordonnées sur le petit papier qui est ici, puis ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Passez une belle journée.